Gary de Jésus, bonsoir. Redites-moi bonsoir, Gary, s'il vous plaît.
Bonne nuit. Bonne
nuit à tous.
Oh, magnifique. Bon, vous êtes content. Je sais que vous êtes au Qatar, que vous suivez l'équipe portugaise, la CSAN qui s'est imposée aujourd'hui contre l'Uruguay sur le score de 2-0. Avec un petit débat que l'on a eu, on pensait vraiment que Cristiano Ronaldo avait marqué le but, le premier but, mais en fait, pas du tout.
Non, pas du tout. C'est Bruno Fernandes qui a marqué ce but et qui a ensuite en a marqué un deuxième, qui un joli doublé de Bruno Fernandes avec la sélection qui permet aux coéquipiers de Cristiano d'être qualifiés pour la suite avec une équipe un petit peu remaniée, on va dire tactiquement, parce que on a vu un Bernardo Silva bien plus axial que à son habitude, beaucoup plus libre aussi. Et puis surtout William Carvalho qui a été mis là pour densifier un petit peu ce milieu de terrain, parce que je pense que Fernando Santos avait un petit peu peur de l'agressivité et de ses Uruguayens.
La première mi-temps a été assez terne, mais on a senti que les Portugais ont vraiment pris les choses en main en deuxième période grâce à Bruno Fernandes, ou à Bruno Fernandes en tout cas, Joao Félix également, mais également Cristiano Ronaldo.
Bah comme je vous l'avais dit, Cristiano Ronaldo évolue avec ce Portugal. C'est vrai que le Portugal commence un petit peu à monter en puissance. Comme je vous l'avais dit dans ce premier match, on les sentait très peu sereins. Ils avaient un peu le ballon qui leur brûlait les pieds. Là, on a vu des Portugais bien plus calmes, qui allaient très vite dans les transitions, qui bougeaient beaucoup plus. Et il y a un joueur qui pour moi symbolise cela, c'est le retour de Pep. Dans cette défense qui donne tout de suite une force supplémentaire à ce Portugal, et vous avez raison de souligner Jean-Félix, de souligner Bruno Fernandes, Bernardo Silva et aussi Cristiano Ronaldo qui comme je vous le dis il commence sa mue dans ce championnat du monde, et je suis sûr qu'il va continuer et petit à petit il change de profil pour être un joueur un peu plus polyvalent, un peu plus pivot dans cette attaque, et ça fait du bien parce que quand il y a des Joao Félix ou des Raphaël Léon qui entrent ensuite et qui tournent autour de lui, ça peut faire très mal. Mais le Portugal en a encore sous le pied parce que je les ai quand même sentis en danger parfois, mis en danger par cette équipe de l'Uruguay, et je suis aussi triste de la sortie de Nuno Mendes qui était très bon en ce début de première période et qui malheureusement est sorti sur blessure.
Voilà, et on ne sait pas s'il est forfait, il est sorti en larmes en tout cas, donc on prendra de ses nouvelles un petit peu plus tard après les examens. Ce qu'on a bien aimé dans cette équipe portugaise qui finalement est plutôt équilibrée dans toutes ses lignes, Gary de Jésus, c'est aussi le gardien, parce qu'à un moment donné il y a eu une très très belle action, sans doute la plus belle de la rencontre de Bentancur pour l'Uruguay, et Diogo Costa a réussi un arrêt formidable.
Oui, le gardien du FC Porto dont je vous parle souvent, il a pris la place de Rui Patricio pendant les barrages en mars dernier, et puis il a plus jamais quitté cette place de numéro 1 de la Seleção. Avec Porto, il fait un très bon début de saison. Je crois que c'est sur deux matchs, il arrête trois pénaltys, la double confrontation contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. C'est un très très bon gardien. Il est encore jeune, hein. Il est de la génération des Vitinha, des João Félix, etc. Donc on est tranquille niveau gardien pour un bon moment, et ça lui a fait du bien cette première parade. Je crois que c'est sur Bentancur où il glisse un peu sur le ballon Diogo Costa, et ça l'a mis ensuite en confiance pour le reste du match, parce qu'il avait sur le match d'avant il avait eu peur d'avoir fait une petite boulette. Finalement il s'est bien rattrapé aujourd'hui.
On avait un petit débat tout à l'heure, on était étonnés quand il y a eu la liste des sélectionnés, des retenus en tout cas pour le Portugal, c'est que le Lyonnais Lopes ne figurait pas parmi les gardiens. Pourtant il est très très bon et il a déjà été appelé. Est-ce que ça fait débat au Portugal, et est-ce qu'il manque selon vous à la Seleção?
Non, pas du tout, parce que Anthony Lopes, ça aurait été une question pour troisième gardien. À partir du moment où il y a eu l'épanouissement de ce Diogo Costa au FC Porto, il était évident qu'il allait prendre les buts de la Seleção tôt ou tard. Et le premier gardien, on est devenu automatiquement le deuxième. Et ensuite, il y avait un petit débat, mais pas très important, sur le troisième gardien, comme il peut avoir en France, José Sá ou Anthony Lopes. Et après, c'est une question de collectif. Ils ont préféré, Fernando Santos a préféré choisir José Sa, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que le deuxième gardien, c'est Rui Patricio.
Il paye peut-être aussi sa mise en retrait il y a quelques années où il avait dit qu'il se consacrait à l'Olympique Lyonnais. Il s'était mis en marge de la sélection pendant quelques mois. C'était ça, hein?
Oui, il y a eu cet épisode. Après, Anthony Lopez, il est en dehors des radars, que ce soit de la presse ou même du sélectionneur, j'espère quand même, qui regarde les matchs de l'Olympique Lyonnais. Mais il est en dessous des radars. Il y a personne qui crie au scandale du fait qu'Anthony Lopez ne soit pas là. C'est vraiment un débat franco-français.
Merci pour toutes ces précisions, mon cher Gary de Jésus. À très vite pour évoquer le Portugal avec vous et prendre des cours de prononciation et de portugais aussi. C'est formidable. Merci. Gary, on va continuer à évoquer cette équipe portugaise et peut-être les favoris aussi de cette Coupe du Monde, dont le Portugal fait partie pour vous, Jimmy Algerino, ou pas? Parce qu'il n'y a que trois équipes qui sont directement qualifiées au terme des deux premiers matchs pour les huitièmes de finale. La France, le Brésil et le Portugal.
Moi, je pense. C'est vrai que cette deuxième mi-temps était beaucoup plus emballante que la première déjà. Et c'est vrai qu'ils ont montré avec tous ces grands joueurs, tous ces individualités et dans un collectif que le Portugal allait être encore parmi les meilleures équipes de la Coupe du Monde. Après, moi, j'ai été très très étonné et agréablement surpris de voir comment Fernandez a pris le leadership sur la sortie de Ronaldo. On l'a senti presque libéré et ça faisait plaisir à voir parce que c'est vrai que sur cette première mi-temps, il a été en dessous avec Félix. Mais en tout cas, derrière, bon, le but, enfin, qui, pour moi, il est, c'est Ronaldo qui le marque, hein, je n'en démords pas. Mais en tout cas, derrière, il a montré tout son talent, il a été là, il a même failli marquer le troisième but, si sa frappe ne s'écrase pas sur le poteau. Et donc, ça montre vraiment que, voilà, les Portugais ont une équipe, ont un gardien, et ont aussi des joueurs incroyables, que ça soit en attaque et aussi au milieu de terrain.
Comment vous prononcez le nom du milieu de terrain de Manchester, le numéro 8 portugais, Jimmy Algerino? J'ai pas bien compris.
Le numéro 8?
Oui.
Fernandez.
Ah voilà, vous avez dit Bruno Fernandez, c'est ça?
Ouais, non, mais là je l'ai dit à l'espagnol.
Ah oui, d'accord, parce que. Si vous écoutez bien Gary Jesus, c'est Bruno Fernandes.
Fernandes.
Voilà, c'est ça. Il faut vous mettre à la page, Jimmy. Qu'est-ce que je vous dis?
Non, mais moi je parle brésilien, je parle pas portugais. Je
vous ah d'accord, ah. C'est vrai que c'est très différent, vous avez raison.
C'est pour lui.
Caipirinha, oui, c'est bien. Ça, vous savez le prononcer, ça, Marc Livre. Bruno Fernandes, justement, comment vous l'avez trouvé ce soir, Marc Livre?
Je l'ai trouvé très intéressant, mais comme Jimmy, une fois que Ronaldo sort, c'est beaucoup plus facile pour lui pour s'exprimer. Après, c'est pas nouveau ce qu'il est capable de faire avec Manchester United. Ça fait partie des joueurs. Bernardo Silva, que je trouve extrêmement, que j'adore, il est toujours un petit peu en retrait, donc c'est de très bon augure pour la suite pour le Portugal, parce que je pense qu'il peut nous montrer autre chose, vraiment, vraiment autre chose. Et João Félix, qui ne joue plus avec son club Atlético, doit lui par contre encore nous montrer autre chose, pareil. Donc c'est une équipe qui, pour moi, est presque toujours en rodage pour dire mais on les a pas encore vus.
Ah oui.
Ça peut être la surprise.
Avec quelques trous d'air. On l'avait vu lors du premier match contre le Ghana. À nouveau, la seconde période, franchement, n'était pas convaincante, où l'Uruguay aurait mérité d'égaliser. Donc voilà.
Mais t'es costaud, tu prends
petit
pas de
bémol, trois équipes avec 6 points, mais pour moi, il y en a une, voire deux, qui ont vraiment montré beaucoup plus de constance.
La France et le Brésil.
Et le Brésil. Oui. Et je mettrais même la France devant, sans être trop chauvin, mais parce que le Brésil aussi a parfois joué un peu avec le frein à main, enfin tranquille, sans trop forcer. Bon, le test pour l'équipe de France était le Danemark, et voilà, c'est passé.
Il y a peut-être une montée en puissance de la part des Portugais aussi, Philippe Doucet.
Oui, mais je pense qu'il faut attendre pour voir. C'est pas encore personne n'est encore complètement dans la Coupe du Monde, même s'ils ont montré des capacités, ils ont mis des buts, il y a des choses positives, mais ils n'ont pas encore. Je pense pas qu'ils soient au maximum de leur rendement. Ils l'ont prouvé encore aujourd'hui. Il y a eu des moments de flottement en deuxième période, malgré tout. Vous avez souligné Bruno Fernandes, Bernardo Silva, effectivement, Bruno Fernandes. En termes de créativité, ça, effectivement, c'est très intéressant. Mais je les ai trouvés un peu irréguliers selon les morceaux de match qu'on a eu aujourd'hui. Et puis, il y a aussi l'âge d'un certain nombre de joueurs qui posent quand même question. Parce que Ronaldo est le titulaire au poste d'avant-centre, il ne se remplacera pas comme ça le jour où il sera moins bien. Pep derrière, bon, serait bien que Danilo revienne peut-être, parce qu'il a 39 ans, Pep, quand même. Hein. C'est ouais. pas, c'est
et ça
pas...
se voit.
Et ça se voit un petit peu. Il y a des petits problèmes de rapidité que Rubén Díaz ne pourra pas compenser totalement, ni le gardien Diogo Costa. Donc, des petits doutes quand même, parce que ça me semble être des effectifs moins riches que le Brésil et la France, si on veut comparer. Je pense que s'il y a des absents, des blessures, des fatigues, ce sera plus difficile pour les Portugais, qui ne font pas partie du G8, je vous rappelle. Les 8 pays qui ont gagné la Coupe du Monde jusqu'alors.
Très bien.
Il y en a
le G8. Référence. Oui, oui, le G8. Oui, oui. Parfait, c'est noté. Il nous reste 30 secondes pour vous donner le programme des matchs de demain. Alors, c'est intéressant puisqu'on arrive déjà au premier et troisième match de groupe et donc les rencontres se déroulent en même temps pour des soucis d'équité bien sûr. Il y aura donc à 16h Équateur, Sénégal et Pays-Bas, Qatar. Le Qatar qui est déjà éliminé et puis Iran, États-Unis et Pays de Galles, Angleterre. Pays de Galles, Angleterre, ce sera le match de 20h, ce sera à suivre en intégralité.
Ouais.
Je pense que Philippe, avec ce match-là, on va se régaler. Pays de Galles,
Angleterre. Je pense, ouais, un petit 29-27, non ?
Au niveau de la climatisation ?
Non,
la température ?
Non, du score. C'est pas du rugby.
Non, c'est pas
pardon,
du rugby.
Pardon,
non, oui, c'est vrai que Pays de Galles, Angleterre, ça
sera un peu plus déséquilibré.
Ça sera intéressant à suivre en tout cas.